Chapitre 10. L'ordre était revenu à Fairfield, mais il s'agissait de la discipline d'un poste militaire et il ne restait rien des caractéristiques habituellement associées à une ville. Si la plupart des bâtiments n'avaient pas été rasés, presque tous leurs habitants avaient disparu. Et bien entendu, après les pillages, tout ce qui avait de la valeur s'était également volatilisé. Devenus des coquilles vides, ces édifices n'étaient guère plus que les souvenirs fantomatiques d'une vie jadis foisonnante. Sous quelques porches, des vieillards édentés, assis sur les marches, regardaient tristement passer les colonnes d'hommes en armes qui allaient et venaient dans les rues. Dans les allées étroites, de pauvres petits orphelins erraient à la recherche de quelques détritus qui leur permettraient de survivre un jour de plus. Comme dans les autres cités qu'elle avait visitées avec l'ordre impérial, Nietzsche s'étonna de la fragilité de ce qu'on nommait la civilisation. Pour qu'elle disparaisse, quelques jours à peine suffisaient. En traversant la ville, la maîtresse de la mort n'eut aucun mal à imaginer ce qu'auraient éprouvé les bâtiments déserts s'ils avaient été dotés d'une sensibilité. Une impression de vide et de mort, parce qu'ils ne servaient plus à rien. Pour exister, ils avaient besoin d'être utiles à des êtres vivants, même si nul ne leur en était reconnaissant. Avec les soldats aux visages fermés qui les arpentaient, accordant à peine un regard aux mendiants émaciés, aux vieillards, aux malades et aux enfants perdus, les rues de Fairfield, envahies par les gravats et les ordures, ressemblaient à celles que Nietzsche avait connues dans son enfance, de sinistres endroits où sa mère l'envoyait souvent secourir les déshérités. « C'est la faute des hommes comme ton père !» avait-elle dit un jour. « Le mien était pareil. » Aucune compassion pour les autres et un cœur de pierre dans la poitrine. Vêtue d'une robe bleue à fanfreluche toute propre, les cheveux soigneusement brossés et tirés en arrière, Nietzsche avait écouté un long serment sur le bien, le mal, le péché et la rédemption. Cette première fois, elle n'y avait pas compris grand-chose. Au fil des ans, à force de l'entendre, elle avait fini par le connaître par cœur, intégrant chaque concept moral et chaque profonde et déprimante vérité. Son père était riche. Pis encore, selon sa mère, il en était fier et n'en concevait pas la moindre honte. L'égoïsme et la cupidité, répétait-elle sans cesse, étaient comme les énormes yeux d'un monstre affamé de pouvoir et d'or. « La mission d'un être humain digne de ce nom, ma fille, est d'aider les autres, pas de penser à lui-même. » L'argent ne permet pas d'acheter la bénédiction du Créateur. Mais comment pouvons-nous lui montrer que nous sommes bons? L'humanité est pervertie, rongée par la jalousie, déloyale et ravagée par des passions immorales. À chaque instant, nous devons lutter contre notre tendance à la dépravation. S'occuper des autres est le seul moyen de prouver que notre âme vaut quand même quelque chose. C'est l'unique bonne action qu'une personne convenable puisse accomplir. De noble naissance, le père de Nietzsche avait pourtant exercé toute sa vie la profession d'armurier. Certaine qu'il avait hérité d'une fortune considérable, son épouse pensait que l'appât du gain seul l'avait poussé à accumuler encore plus de biens. Et pour cela, affirmait-elle, il avait sans remords exploité et détroussé de pauvres gens. La majorité des nobles, comme la mère de Nietzsche et ses amis, tirait une grande fierté de ne pas s'adonner à des pratiques honteuses de ce genre. La méchanceté de son père et sa fortune mal acquise emplissaient Nietzsche de culpabilité. Par bonheur, sa mère faisait tout pour essayer au moins de sauver l'âme égarée du pauvre pécheur. En revanche, Nietzsche ne s'inquiétait jamais pour l'âme de sa mère. Tant de gens vantaient sa gentillesse, sa générosité, sa charité et sa piété. Mais la nuit, la petite fille, qui était alors la maîtresse de la mort, avait du mal à s'endormir, angoissée à l'idée du châtiment que le Créateur infligerait à son père s'il ne se rachetait pas avant qu'il soit trop tard. Pendant que sa mère allait voir ses éminents amis, la gouvernante de la maison familiale faisait souvent un détour sur le chemin du marché par l'armurerie afin de demander à Maître Ward ce qu'il désirait pour le dîner. Nietzsche adorait ce moment de la journée. Tandis que la domestique s'entretenait avec son employeur, elle faisait le tour de la fabrique, les yeux ronds d'émerveillement. Toute petite, elle était persuadée de pouvoir prendre un jour la succession de son père. Assise dans un coin du salon, elle passait des heures à marteler un morceau de tissu placé sur une chaussure posée à l'envers, ce qu'elle avait trouvé de mieux pour imiter une armure et une enclume. Ces moments de solitude comptaient parmi les meilleurs souvenirs de son enfance. Beaucoup d'hommes et de femmes travaillaient pour son père. Presque chaque jour, des chariots venus de très loin apportaient à la fabrique d'énormes quantités de barres de fer et d'autres matières premières. Plus rarement, de lourdes lingotières flambant neuves arrivaient par le fleuve sur des barges. Le matin, des chariots escortés par des hommes en armes partaient livrer des clients aux quatre coins du pays. Dans la fabrique elle-même, des hommes s'affairaient jusqu'à la tombée de la nuit devant les forges, pendant que d'autres martelaient les pièces qu'ils venaient de chauffer au rouge. Des spécialistes très respectés les transformaient ensuite en de magnifiques armes. Certaines lames, disait-on, étaient composées d'un alliage rare appelé acier empoisonné, et elles tuaient à tous les coups, même si la blessure était superficielle. D'autres ouvriers aiguisaient les épées, polissaient les armures ou ajoutaient sur les boucliers les plastrons et les lames de merveilleuses gravures qui représentaient des scènes de chasse ou de guerre. Les femmes se consacraient surtout aux travaux de précision. Assises sur des bancs devant de longs établis, elles bavardaient joyeusement de délicieux ragoûts, tout en insérant avec des pinces spéciales de minuscules rivets dans la partie aplatie des milliers de petits maillons de fer nécessaires à la confection d'une cotte de maille. Nietzsche adorait les écouter et les regarder, ébloui par l'inventivité de l'esprit humain. Quel génie avait eu un jour l'idée qu'un matériau aussi dur que le fer puisse servir à la confection d'une sorte très particulière de vêtement. Des clients venaient de très loin pour acheter une des célèbres armures de Maître Ward, les meilleures du monde, affirmait-il, ses yeux bleus brillants de passion comme chaque fois qu'il parlait de son métier. Et ce n'était pas de la vantardise, car des rois traversaient parfois d'incroyables distances pour se faire fabriquer sur mesure une de ces merveilles d'artisanat, parfois tellement sophistiquées qu'une équipe hautement qualifiée devait s'échiner dessus pendant des mois. Venant d'un peu partout, des forgerons, des maîtres de forge, des fondeurs, des fraiseurs, des graveurs, des polisseurs, des couturières pour les rembourrages des armures et des légions d'apprentis proposaient quotidiennement leurs services au père de Nietzsche. Toujours prêt à les écouter et éventuellement à admirer les échantillons de leur travail qu'ils apportaient avec eux, Maître Ward en déboutait beaucoup plus qu'il n'en engageait. Droit comme un i, les traits anguleux. Howard était un homme impressionnant de compétence et de sérieux. Quand elle le regardait travailler, Nietzsche aurait juré qu'il voyait en permanence des détails qui échappaient au meilleur de ses employés, comme si le métal lui parlait dès qu'il posait une main dessus. Économe de ses mouvements, un peu comme un joaillier qui a toujours peur de faire un geste malheureux, il incarnait aux yeux de sa fille la force, le pouvoir et la détermination. Des officiers, des nobles et d'autres hauts personnages venaient sans cesse à la fabrique pour lui parler. Quand elle passait le voir, Nietzsche s'étonnait toujours qu'il soit tellement sollicité, d'autant plus que ses fournisseurs et ses employés le bombardaient continuellement de questions. « C'est tout simplement à cause de sa vanité », lui avait un jour expliqué sa mère. « Il oblige de pauvres travailleurs à le flatter du matin au soir. » Même s'il en était ainsi, ce dont elle doutait un peu, Nietzsche aimait beaucoup regarder le complexe ballet des hommes et des femmes en plein labeur. Souvent, les ouvriers s'interrompaient, lui souriaient, répondaient à ses questions et, plus rarement, lui permettaient de marteler une petite pièce de métal. Vaniteux ou non, son père paraissait sincèrement heureux de converser avec toutes ces personnes. À la maison, le visage fermé, il ne desserrait pratiquement jamais les lèvres pendant que son épouse lui débitait d'interminables discours. Et quand il se montrait volubile, une fois de temps en temps, il parlait presque exclusivement de son travail. Ces soirs-là, Nietzsche buvait ses propos parce qu'elle brûlait d'envie de tout connaître sur lui et son métier. « Ne t'y trompe pas, ma fille, » lui avait confié un jour sa mère. « Au fond de son être, sa cupidité et son arrogance grignotent inexorablement son âme invisible. » Dès cet instant, Nietzsche avait prié pour être en mesure, quand elle serait grande, d'aider l'âme de son père à se racheter, afin qu'elle soit aussi belle et saine que son enveloppe corporelle. Howard adorait sa fille. Mais aider à l'élever lui semblait une tâche trop sacrée pour un être fruste comme lui. Se pliant à la volonté de sa femme, il ne la contredisait jamais, même quand il embouillait visiblement d'envie, et assurait qu'elle en savait à coup sûr beaucoup plus long que lui sur l'éducation d'une fillette. De toute façon, la fabrique lui prenait presque tout son temps. Un désir de s'enrichir, selon sa femme, qui trahissait l'indigence de son âme, Car il préférait voler les pauvres plutôt que consacrer sa vie à les secourir comme le Créateur le prescrivait. Presque tous les soirs, alors qu'il revenait pour le dîner et pendant que les domestiques faisaient le service, elle tenait de longs monologues plaintifs sur tout ce qui n'allait pas dans le monde. Sa dernière bouchée avalée, Howard se levait et repartait au travail, souvent sans avoir dit un mot de tout le repas. Son épouse s'en empourprait de colère, car elle avait encore beaucoup de choses à lui révéler sur son âme, mais il était trop occupé pour écouter, bien sûr. Nietzsche entendait souvent les gens couvrir sa mère de louanges, parce qu'il n'avait jamais rencontré une femme si généreuse et compatissante. « Une vraie sainte !» concluait-il toujours, le regard admiratif. Certains soirs, peu fréquents, Howard restait à la maison. Alors que sa femme, campée devant une fenêtre, contemplait la cité obscure en pensant à tous les drames qui s'y déroulaient, il se glissait derrière elle et posait tendrement une main sur son dos, comme si elle était une délicate porcelaine. Toujours très doux et souriant à ces instants-là, il laissait glisser ses doigts jusqu'à la naissance des reins de son épouse et lui murmurait quelques mots à l'oreille. La mère de Nietzsche tournait la tête, pleine d'espoir, et elle implorait de contribuer aux louables efforts de sa confrérie. D'humeur conciliante, Howard lui demandait combien d'argent il lui fallait. Sondant le regard de son mari, comme si elle y cherchait une ultime trace de dignité humaine, la sainte murmurait un chiffre. Non sans soupirer, Howard donnait son accord, puis il passait un bras autour de la taille de sa femme et annonçait qu'il était l'heure pour tout le monde d'aller au lit. Un soir, alors qu'il venait de poser la question rituelle au sujet de la somme requise, la mère de Nietzsche avait haussé les épaules, puis lâché. « Je n'en sais rien, Howard. Que te dit ta conscience? Un vrai fidèle du Créateur dans ta position serait beaucoup plus généreux. Dire que tu accumules une fortune pendant que tant d'autres crèvent la faim. « Combien vous faut-il à tes amis et à toi ?»« Mes amis et moi n'avons besoin de rien, Howard. » Mais des milliers de gens appellent au secours, et ma confrérie lutte inlassablement pour soulager leur misère. Combien ? 500 couronnes d'or. On eût dit que ce chiffre était une massue qu'elle cachait dans son dos, guettant le moment propice de la brandir pour assommer son adversaire. Stupéfait, Howard avait reculé d'un pas. « Tu sais combien de temps je dois travailler pour gagner une somme pareille ?»«
Tu ne travailles pas, Howard. Tes esclaves s'en chargent à ta place. »
Des esclaves. Ce sont les ouvriers les plus qualifiés de ma branche.
Bien sûr, puisque tu les voles à tous tes concurrents.
Personne ne paie mieux que moi. Ces hommes et ces femmes ont fait des pieds et des mains pour que je les engage.
Parce qu'ils sont les innocentes victimes de tes malversations. Tu les exploites. La preuve, c'est que tes prix sont les plus élevés du marché. Grâce à tes relations, tu complotes pour ruiner les autres armuriers. « Afin de te remplir les poches, tu enlèves le pain de la bouche à de pauvres ouvriers. »«
Mes armes et mes armures sont les meilleures du pays. »« Les clients s'adressent à moi parce qu'ils cherchent la qualité. »« Mes prix sont équitables, tout simplement. »«
Personne ne pratique les mêmes. Tu ne peux pas le nier. »« Toujours plus, voilà ta devise. »« L'or est ta seule raison de vivre. »«
Les clients me choisissent parce que je suis le meilleur. »« C'est ça ma raison de vivre. »« Les autres armuriers proposent des produits beaucoup moins fiables. » Sais-tu pourquoi? Parce que ma technique de trempe est supérieure à la leur. Mais tu ne sais pas de quoi je parle, évidemment. Les armes et les armures qui sortent de chez moi sont garanties à vie. Je ne vends pas de la camelote. On me fait confiance parce que mes créations sont uniques.
Les créations de tes employés? Toi, tu te contentes d'encaisser les bénéfices.
Presque tout passe dans les salaires et les investissements. Le nouveau laminoir m'a coûté une fortune.
Les affaires, toujours les affaires. Quand je te demande de contribuer modestement au bien-être de la communauté, celui des pauvres, pour être précise, on dirait que j'ai l'intention de t'arracher le cœur. Préfères-tu vraiment que les gens meurent de faim, si ça peut t'épargner d'ouvrir ta bourse? Howard, l'argent compte-t-il plus pour toi que la vie des autres? Serais-tu cruel et insensible à ce point?
Le père de Nietzsche s'était tu un moment, puis il avait soupiré. « Très bien, tu auras cet argent. » Je ne souhaite la mort de personne et j'espère que cette somme aidera vraiment des malheureux. À présent, très cher, si nous allions nous coucher...
Ta mesquinerie m'a dégoûté, Howard. Donner de ta propre initiative ne te viendrait jamais à l'idée. Il faut te supplier alors que la charité est une vertu capitale. Ce soir, Tu as accepté parce que tu espérais, en échange, satisfaire tes bas instincts. Crois-tu que je n'ai aucun principe ?
Howard s'était détourné, dirigé vers la porte et immobilisé en découvrant sa fille assise dans un coin, les yeux écarquillés.
Nietzsche avait été terrorisé par l'expression de son père. Pas parce qu'il était furieux, mais à cause de ce qu'exprimait son regard. Un univers entier de sentiments déchirants qu'il souffrait de ne jamais extérioriser.
Mais éduquer Nietzsche était la mission de sa femme, et il avait juré de ne pas s'en mêler. Après avoir caressé les cheveux de sa fille, il était sorti en marmonnant qu'il devait aller vérifier quelque chose à la fabrique. Une fois seul, la mère de Nietzsche s'était également aperçue que la petite était là, jouant à fabriquer une cotte de maille avec des perles et de la ficelle.
« Ton père est allé voir les filles de joie !»
avait-elle dit, les poings plaqués sur les hanches.
« J'en suis certaine. Tu es trop petite pour comprendre. Mais je veux que tu le saches, pour ne plus jamais lui faire confiance. C'est un mauvais homme, et je ne serai pas sa putain. Maintenant, laisse tes jouets et viens avec moi. Je vais voir mes amis, et il est temps que tu apprennes à te soucier des autres au lieu de ne penser qu'à toi. »
Chez une des amies de la mère de Nietzsche, deux ou trois hommes et une dizaine de femmes assis en rond parlaient de choses sérieuses en buvant du thé. Quand ils avaient demandé poliment des nouvelles d'Howard, la réponse avait été sans ambiguïté.
« Messire est sorti ce soir, pour travailler ou aller chez ces dames. Je n'en sais rien et je ne peux pas vérifier. »
Une des femmes avait tapoté le bras de l'épouse délaissée pour la réconforter. Au fond de la pièce était assis un homme tout de noir vêtu, que Nietzsche avait trouvé plus effrayant que la mort en personne. Entraîné dans une conversation sur l'épouvantable misère du peuple, la mère de la fillette avait très vite oublié ses déboires conjugaux. En ville, beaucoup de gens souffraient. Affamés, malades ou blessés, ils n'avaient pas de travail, par manque de qualification, et ne parvenaient plus à nourrir leurs enfants et leurs vieux parents. Expulsés de leur domicile, vêtus de haillons, ils étaient frappés par tous les malheurs du monde, et plus encore si c'était possible.
Nietzsche s'impatientait toujours quand sa mère déclarait que les choses ne pouvaient plus durer comme ça et qu'il fallait agir. Au lieu de parler, pourquoi quelqu'un ne se décidait-il pas à changer le monde?
Un des hommes avait assuré que tout ça était la faute des gens intolérants qui prêchaient la haine.
Exactement ce que Nietzsche redoutait de devenir. Si elle avait un cœur de pierre, le Créateur la punirait et elle ne voulait surtout pas que ça arrive.
Sa mère et les autres avaient affirmé que les problèmes des déshérités les concernaient au plus haut point. Après avoir énoncé ses convictions, chaque orateur s'était autorisé un bref coup d'œil à l'homme assis dans un fauteuil, tout près du lit, le front plissé par la concentration.
Les prix augmentent chaque jour et ça étrangle les plus faibles,
avait marmonné un homme aux paupières tombantes, affalé sur sa chaise comme un tas de vieux chiffons.
Ce n'est pas juste. Les commerçants ne devraient pas avoir le droit de faire fluctuer le marché à leur guise. Le duc devrait intervenir, avec l'influence qu'il a sur le roi.
« Oui,
avait dit la mère de Nietzsche après avoir bu une gorgée de thé.
J'ai toujours eu le sentiment qu'il s'intéressait aux justes causes. À mon avis, on devrait pouvoir le convaincre de proposer des lois équitables. »
Par-dessus le bord à liseré d'or de sa tasse, elle avait jeté un regard furtif à l'homme sinistre. Une des femmes avait assuré qu'elle encouragerait son mari à soutenir les initiatives du duc. Une autre avait proposé qu'on rédige une pétition au sujet de la politique des prix.
« Des gens meurent de faim !»
avait dit une femme au visage ridé, comblant un long silence.
« J'en vois tous les jours. Si nous pouvions au moins en aider quelques-uns !»
Reconnaissant qu'elle ait relancé le débat, tous les participants avaient souscrit à un programme théorique. Une autre femme s'était tortillée un moment sur sa chaise comme une poule sur le point de pondre un œuf.
« Je suis révoltée que personne ne veuille donner du travail à ces malheureux. Pourtant, ce n'est pas l'ouvrage qui manque. »«
Je sais, »
avait soupiré la mère de Nietzsche.
« J'en ai parlé avec Howard et j'ai failli exploser de colère. Il embauche des gens qui le flattent plutôt que des pères de famille dans le besoin. C'est une honte. »
Le petit groupe avait compati.
« Vivre avec un tel mari devait être un calvaire. » « Il est injuste que quelques hommes aient tout alors que tant d'autres n'ont rien, »
avait dit l'homme aux paupières tombantes.
« C'est même immoral. »« L'égoïsme est un péché capital, »
avait lancé la mère de Nietzsche. Oubliant le morceau de gâteau qu'elle allait mordre, elle avait jeté un coup d'œil à l'homme taciturne.
« Je répète tous les jours à Howard que se sacrifier pour les autres est l'acte le plus noble que puisse accomplir un être humain. Si nous sommes en ce monde, c'est pour ça, et pour aucune autre raison. Voilà pourquoi j'ai décidé de verser 500 couronnes d'or pour la cause. »
Tout le monde avait été impressionné, félicitant l'épouse d'Howard d'être si généreuse. Non sans regarder l'homme qui n'avait toujours rien dit, chacun des participants s'était écrié que le Créateur la récompenserait dans sa prochaine vie. Grâce à cet argent, tant de souffrances pourraient être soulagées. Très fière, la mère de Nietzsche avait poussé son avantage.
« Je crois que ma fille est assez grande pour apprendre à aider les autres. »
Nietzsche s'était avancé sur sa chaise, très excité à l'idée de participer enfin à ce que sa mère et ses amis appelaient une mission sacrée. On eût dit que le Créateur en personne venait de lui ouvrir le chemin du salut.
« J'ai très envie d'être une bonne personne, maman. Qu'en pensez-vous, frère Narev ?»
avait demandé la mère de Nietzsche en regardant l'homme assis à l'écart. Sous son chapeau froissé, le frère Narev avait plié le front, puis il s'était autorisé un demi-sourire énigmatique.
« Ainsi, mon enfant, tu voudrais devenir un petit soldat ?»
avait-il demandé d'une voix presque assez puissante et grinçante pour faire trembler les tasses sur les soucoupes.
« Non, messire, »
avait soufflé Nietzsche.
Quel rapport y avait-il entre l'armée et le désir de faire le bien ? Selon sa mère, les soldats n'étaient que des brutes assoiffées de sang.
« En fait, je veux aider les malheureux. »
« C'est notre objectif à tous, mon enfant. Nous sommes les soldats de la confrérie de l'ordre, des combattants qui luttent pour la justice. »
Dans la pièce, personne n'avait jusque-là eu l'audace de regarder franchement frère Narev. On lui jetait uniquement des coups d'œil à la dérobée, comme si son visage avait été un médicament miracle qu'il ne fallait pas boire d'un coup mais siroter par petites gorgées. La mère de Nietzsche avait regardé nerveusement autour d'elle, comme un cafard qui cherche une fissure où disparaître.
« Vous avez raison, bien entendu, frère Narev. Les soldats du bien sont les seuls qui méritent de la considération. »
Elle avait tiré sur la manche de Nietzsche pour qu'elle se penche en avant.
« Ma petite, le frère Narev est un grand homme. Tu as devant toi le haut prêtre de la confrérie de l'ordre, une antique congrégation qui s'est jurée d'accomplir la volonté du Créateur en ce monde. Il est aussi un grand sorcier, frère Narev. Je vous présente Nietzsche, ma fille. »
Poussée vers l'homme comme si elle était un cadeau du Créateur en personne, Nietzsche, contrairement aux autres, n'avait pas pu détourner le regard des yeux tombants de l'homme. Ils étaient vides et froids, comme la mort.
« Ravi de te connaître, Nietzsche. »«
Incline-toi et baisse-lui la main, »
avait soufflé la mère de la fillette. Nietzsche s'était agenouillé et avait embrassé une des phalanges du frère pour ne pas devoir poser les lèvres sur le réseau de veines bleues qui zébrait le dos de sa main tavelée.
« Bienvenue dans notre mouvement, Nietzsche. Guidé par la main ferme de ta mère, je sais que tu accompliras la volonté du Créateur. »
À cet instant, Nietzsche avait pensé que le Créateur devait être le frère jumeau de cet homme. À cause des sermons de sa mère, elle redoutait plus que tout la colère du Créateur. Pour obtenir le salut, elle devait sans tarder s'engager sur la voie de la charité et devenir une personne débordante de compassion.
Mais faire le bien semblait tellement ennuyeux comparé à la joyeuse ambiance qui régnait dans la fabrique de son père.
« Merci, frère Narev, »
avait-elle dit.
« Je m'efforcerai d'être irréprochable dans cette vie. »
« Un jour, avec l'aide de jeunes gens comme toi, nous changerons le monde. Mais je ne me berce pas d'illusions. Les hommes sont mauvais et nous ne les gagnerons pas vite à notre cause. Heureusement, les braves gens qui sont ici et d'autres, qui pensent comme eux, sèment chaque jour les graines de l'espoir. »
« La confrérie est secrète ? »
avait demandé Nietzsche, soudain plus enthousiaste. Alors que sa mère et ses amis gloussaient, le frère Narev s'était contenté d'un demi-sourire.
« Non, mon enfant, bien au contraire. Notre désir le plus fervent et notre mission la plus sacrée
est de dévoiler à la face du monde la corruption consubstantielle de l'humanité. Le Créateur est parfait. Les mortels sont de pauvres êtres pervertis. Pour échapper à son courroux et recevoir notre récompense dans l'autre monde, il faut regarder en face notre imperfection et nos péchés. Se sacrifier pour le bien de tous est le seul chemin vers la rédemption. Notre confrérie accueille tous ceux qui sont prêts à s'oublier eux-mêmes et à vivre selon de stricts principes moraux. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne nous prennent pas au sérieux. Un jour, ils changeront d'avis. Les temps approchent où les flammes du changement crépiteront partout dans le monde et détruiront les anciens mensonges. Quand auront disparu les méchants et les prévaricateurs, un ordre nouveau naîtra des cendres encore fumantes du mal. Lorsque nous aurons purifié la terre des hommes, il n'y aura plus de roi ni de prince. Pourtant, l'ordre règnera, parce que le peuple gouvernera au nom du peuple. Ce jour-là, nul ne tremblera plus de froid, ne mourra plus de faim, ni ne souffrira sans que se tende une main secourable. Car le bien commun, en ces temps bénis, primera sur les désirs égoïstes des individus. Nietzsche voulait vraiment faire le bien. Mais cette voix puissante et grinçante l'avait fait penser au bruit de la porte d'une cellule qui se refermait lentement. Sa cellule. Tous les yeux étaient rivés sur elle, comme pour deviner si elle pourrait un jour être aussi charitable que sa mère.
« J'ai hâte que ces temps arrivent, frère Narev. »
Et tu as bien raison. N'aie crainte, tu contribueras à leur avènement. Laisse-toi guider par tes sentiments et comme un brave soldat, avance sur le chemin qui conduit vers un ordre nouveau. Mais cette route sera longue et difficile, mon enfant, et tu devras garder la foi. À part toi, tous ceux qui sont dans cette pièce ne vivront sûrement pas assez longtemps pour voir germer les graines qu'ils ont plantées. Avec un peu de chance, tu vivras un jour dans le monde merveilleux que je viens de décrire.
Je prierai pour avoir ce bonheur, frère Narev.
Avec Oasenichi, la gorge serrée.